Bonjour et bienvenue dans la bande originale.
Hello.
Bonjour Leïla Kaddour, bonjour Boudadi, bonjour Daniel Morin. Toute la bande originale avec une équipe au grand complet pour célébrer la sortie de Caruso 1873. C'est le dernier album de Monsieur Roberto Alagna.
Je l'adore ce Roberto.
C'est vrai ?
J'aime pas quand il chante, mais j'aime le bonhomme.
Bienvenue Roberto pour nous présenter ce Caruso, un artiste que vous avez toujours admiré que vous allez enfin chanter, auquel vous rendez hommage avec près d'une vingtaine de titres. Voilà, Caruso, là, c'est le titre de la chanson de Lucio Dalla.
Oui, parce que c'est emblématique aujourd'hui.
Voilà, c'est ça.
C'est une chanson de Florent Pagny au départ.
De Pavarotti.
J'ai fait une adaptation, c'est-à-dire que j'ai mélangé deux titres. Une chanson napolitaine avec la chanson de Lucio Dalla, parce que Lucio Dalla s'était inspiré de cette chanson napolitaine qui est Dici Donci Lo Vuoi, et moi j'ai fait un mélange avec Ivan, donc voilà, c'est une version inédite.
Que représente Caruso à vos yeux? C'est celui qui vous a donné envie de...
C'est la Rolls Royce des ténors.
Carrément.
Voilà, c'est la Rolls Royce des ténors, c'est le plus grand ténor de tous les temps. C'est le monstre complet, et il n'y a pas mieux.
À quoi on... quelle est l'unité de valeur pour dire le plus grand de tous les temps?
C'est la façon de chanter, c'est-à-dire la beauté de la voix, la spontanéité, la musicalité, mais aussi le côté surhumain de cette voix, qui en même temps est simple. C'est-à-dire que nous, tous les chanteurs essaient de trouver une sorte de simplicité. Quand on a réussi à atteindre la simplicité, c'est que vraiment c'est le nirvana. Voilà, c'est la perfection. Ben lui, il a ça. Voilà. Et en plus, il y a un instrument qui est façonné par la nature, mais aussi par lui-même. C'est quelqu'un qui a énormément souffert, une famille modeste. Pour y arriver, c'était très difficile parce qu'au départ, ça marchait pas. Voilà. Et donc, il y a une sorte de dépassement de soi qui fait que Caruso, c'est le bac dans la musique, quoi.
Et même physiologiquement, apparemment, il avait une bouche très très grande.
Oui,
des cordes vocales anormalement longues, c'est ça?
Oui. Mais ça, j'y crois pas trop, moi. Ouais. Mais c'est vrai que la capacité pulmonaire, il avait une bouche très très profonde c'est un peu bizarre quand même de dire ça.
C'est gorge profonde, c'est bizarre.
Ah,
bouche profonde,
ça va.
Bouche profonde,
ça
va. Il a des bonnes références.
Mais
je pense que c'est surtout une ossature. Ossature qui fait que c'est un Stradivarius, quoi.
Est-ce que justement le physique, parce que les cordes vocales, il y en a que deux.
Oui,
comment devenir...
En fait, la corde vocale, c'est pas grand-chose. C'est comme l'étincelle quand on fait...
Un feu,
voilà. C'est juste l'étincelle, mais c'est tout le reste. C'est-à-dire que c'est comme dans un Stradivarius, le bois, le vernis, l'assemblage de tous ces matériaux va faire que ça va sonner d'une façon extraordinaire.
Ça veut dire que la nature
l'a doté,
donne vraiment des dons à certains et pas à d'autres.
Oui. C'est ce que je disais avec Albert en coulisses, c'est une programmation. Voilà, le chant, c'est ça. On est programmé par la nature, mais dans tous les domaines, c'est la même chose. L'athlète, le sportif, l'homme hyper intelligent, la femme super intelligente aussi, tout ça, c'est la nature qui donne ça.
On va revenir surtout sur votre interprétation, parce que là on parle beaucoup de Caruso, mais c'est votre voix qui est quand même heureusement présente pendant ces 20 titres, et puis de savoir comment vous avez travaillé pour vous rapprocher le plus possible de ce ténor qu'était Caruso. Mais d'abord des questions concernant la vie et l'œuvre de notre invité, Roberto Alagna. Qu'a fait Roberto après son audition au concours de chant de Pavarotti?
Il a pleuré.
Pas loin.
Il a hurlé.
Il s'est cassé la voix.
Non, il a fait quelque chose que tu fais quotidiennement.
Il fume.
C'est saoulé.
Il fume.
Exactement.
Presque.
Vous êtes allé boire de l'alcool fort.
Ah oui, j'étais en plein désespoir. Oui, bien sûr. C'était les éliminatoires. Je savais pas que c'était un concours. Je croyais que c'était juste une audition et je me suis retrouvé à Pesaro dans le théâtre Rossini avec des tas d'aspirants chanteurs. Et donc
Là
j'avais 22 ans, 21 ou 22 ans. Et donc tout le monde chantait deux airs et avant moi Cecilia Bartoli. Et donc elle avait chanté deux airs, enfin tout le monde. Et puis moi j'arrive, je fais une mesure, on m'arrête, merci, au revoir. Pavarotti. Je me suis fait virer, c'était la honte quoi. Enfin, le voyage.
C'est violent surtout.
Bah oui, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire à ma famille quoi. Je suis allé à Pesaro pour rien. Surtout, j'avais pris le train. Je suis arrivé au dernier moment. C'était le 14 juillet. Je me suis changé dans les toilettes du restaurant à côté. Vraiment. Et donc, et je me suis. Alors, je suis parti noyer mon chagrin au bar de l'opéra. J'ai été prendre un whisky. Et puis, il y a une dame qui me tape sur l'épaule et elle me dit bravo. Et je dis, en plus, elle se moque de moi quoi. Je la regarde, je dis bravo, merci, j'ai été éliminé sur une mesure. Il me dit non, vous savez, Luciano connaît très bien les voix de ténor, vous êtes qualifié, il n'avait pas besoin de plus. Ah bon, je dis, mais vous êtes qui, madame? Je suis madame Pavarotti, c'était sympa.
Dites-moi s'il vous plaît, à propos de Roberto Alagna, il a une collection impressionnante, mais de quoi?
Que collection? Tire-bouchon.
Non. Collection de tire-bouchons. Le mec, non seulement il boit quand il réussit ses concours,
mais quelle réputation.
C'est en lien avec l'art lyrique ou pas?
Oui. Des disques, des vinyles,
des partitions.
Non,
alors. De cordes vocales.
Non? Collection, c'est pas mal.
Des enregistrements.
Et oui, c'est de l'opéra, mais sur quel.
De
quel.
De disques, de gramophones, de trucs.
Non. Des rouleaux. Non. Collection d'opéra, mais comment?
Des masters,
les livrets
de...
Non.
Des tickets
non.
D'entrée.
Des programmes.
Non.
C'est de l'enregistrement?
Oui.
Ouais. Mais
il a carrément des bandes originales.
Non.
Il a acheté des chanteurs qui chantent chez lui.
Non.
Bon, les MP3, c'est pas très joli comme collection.
Il a toutes ses performances à lui.
Des cassettes.
Oui, mais de quoi? Il y a quoi dessus?
Des enregistrements.
Des répétitions.
Des compiles.
Non.
Des voix parlées, chantées.
Des allemandes,
des trucs.
Répétitions allemandes au
chant. Non, c'est autour de l'opéra. Mais faites un effort si vous arrivez.
Je sais pas. Tous les opéras.
Le livret original.
Non.
Des captations.
Des enregistrements d'opéra.
Bon, oui, exactement, de vidéos, de films autour de l'opéra. Vous avez
une... Oui, j'ai tout, je crois.
Dès qu'il y a un film qui touche à l'opéra, de près ou de loin.
En fait, je suis un vrai passionné d'opéra et de musique en général, mais plus d'opéra. Et donc, j'ai tous les enregistrements en 78 tours. J'ai aussi des rouleaux, j'ai des disques, des CD.
Les vidéos de films, c'est
oui, les films aussi, parce que.
Les films, c'est Ferrelli, Rossi, enfin, dès qu'il y a une scène d'opéra.
Vous saviez, en Italie, à l'époque, on faisait un film sur tous les opéras. Les Surpaillas, les Gardemour, les Forces du Destin, tout ça. Tout était donné au cinéma. C'était arrangé, c'était raccourci. Mmh. Et c'est par ce biais-là que ma mère, ma grand-mère, allait découvrir les opéras. Voilà, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller à l'opéra. Et donc, le cinéma était quelque chose d'important. C'est pour ça que je suis toujours.
C'est ce qui se fait aujourd'hui, voilà. D'ailleurs, beaucoup.
Je suis
hein.
pour quand on critique les nouveaux supports, etc. Je dis non, au contraire, allez-y, parce que c'est ça qui peut aussi déclencher des passions. Bien sûr, tout à fait.
Mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression, quand on n'a pas été éduqué, qu'on n'y a pas droit. On n'a pas
exactement,
accès.
Exactement.
C'est réservé à une caste, c'est réservé aux riches, c'est réservé à ceux qui savent.
Le monde de l'opéra. Ouais. On pense que c'est réservé à une
mais pourquoi
caste.
Est-ce que le monde de l'opéra ne joue pas un peu à ça aussi.
Moi, je sais, parce que quand je disais à mes parents, ça serait bien qu'on aille voir un opéra, ils me disaient, mais c'est pas notre monde, nous sommes des ouvriers, c'est pas pour nous. Elle me disait ça, alors que c'était une erreur, on peut y aller à l'opéra. Mais la musique, au contraire, est faite pour tout le monde. Mm-hmm. C'est ça qui est formidable.
Par exemple, c'est
la musique populaire de son temps.
Ouais.
L'opéra, c'est la musique populaire de son temps. Ça voudrait dire que si aujourd'hui ce n'est pas pour nous, ça voudrait dire que les gens d'avant étaient plus intelligents. Ça voudrait dire plus cultivé.
Bah, on a le sentiment de ne pas être éduqué pour l'opéra pour certaines
personnes.
Mais
il faut faire l'effort.
Daniel, tu veux dire?
Non, mais à chaque fois qu'on voit des images de gens qui se rendent à l'opéra, les femmes sont en robe du soir, les hommes sont
de moins en moins.
Non, c'est pas
en
vrai.
Tout cas, enfin, venez au Stade de France, on va faire Carmen l'année prochaine. Venez au Stade de France, il n'y a pas besoin d'être habillé
en survêtement.
Voilà, vous pouvez venir même en survêtement, et ça c'est formidable, et il y aura de la place pour tout le monde. C'est quand même assez incroyable.
Je voulais parler de l'idée de ne pas applaudir pendant une représentation de musique classique ou d'opéra.
Ça, c'est ridicule.
Ça fait partie
quand
du code.
Quand j'entends des psh, 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 machin, ça, c'est vraiment ridicule.
C'est qu'il y a des gens qui font la loi, qui font chute à ceux qui
parce
veulent applaudir.
Ils pensent être connaisseurs, ils ont l'impression qu'ils vont déranger. Au contraire, ça va décupler les forces des chanteurs et des interprètes qui vont donner encore plus. Même les compositeurs ont prévu, et ils voulaient des applaudissements. C'est quand ils finissent avec les pam, 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 patam, pam, 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 pam. C'est parce qu'ils attirent l'applause, ils le veulent. Et d'ailleurs, c'est ce qui faisait le succès
mais alors,
des opéras.
Roberto Alagna,
on comptait les applaudissements.
Ça vient d'où? Qui a dit non, n'applaudissez pas?
Un petit groupe qui fait toujours. C'est les extrémistes de l'opéra.
Mais donnez les noms, Roberto.
Moi, je ne les connais pas, parce qu'en plus, ils se cachent, ces gens-là, en général.
Bon, dans quelle situation un peu particulière, physiquement, Roberto peut-il travailler ses partitions?
Enroué.
Allongé.
Non.
Dans son lit.
Allongé, oui, mais
sous sa douche.
Allongé, d'accord.
Mais dans un hamac.
Dans son lit, non.
Exactement.
Dans quoi?
Dans un hamac.
Ça m'arrive l'été, hein. Pas tout le temps. Vous imaginez s'il fallait que je trouve un hamac à chaque fois que je voyage à New York et partout, ça serait difficile.
Non, mais l'idée de travailler allongé, je pensais, mais vous allez sûrement me corriger, qu'il fallait plutôt être debout.
C'est une posture.
Ouais, pour la colonne d'air, qu'il vaut mieux être debout, surtout pas assis en tout cas.
Après, je fais pas une performance athlétique dans le hamac non plus. Hein. Je murmure, je mémorise, je travaille. C'est différent, c'est comme
vous
de la lecture.
Donc vous chantez presque dans votre tête.
Je chantonne. Ouais. Après, ça m'arrive de chanter aussi allongé, même la tête en bas. Et, ça m'est arrivé.
Un petit côté cascadeur.
Oui. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je souffre un petit peu des chevilles, des genoux, les poignets. Enfin, tout est cassé.
Voilà. Quelle est la position physique dans laquelle on est le plus à l'aise pour chanter? C'est quand même debout.
Debout, debout. Il y a des artistes qui adorent chanter à genoux ou assis. Ils ont l'impression d'avoir
mais
un soutien.
Assis, on me disait que ça coupait la colonne d'air.
Si on se plie en deux, oui. Ça, mais si on est assis et avec une posture quand même
droite,
ça marche.
Le flamenco, ils chantent souvent.
Oui, assis. C'est vrai. Ouais. Mais ils font pas beaucoup de contrutes.
Pourquoi sa fille Malena a-t-elle été choquée, très choquée, quand elle a vu Othello?
Parce qu'elle l'a vu mourir.
Parce qu'il était noir.
Parce qu'il allait.
Parce qu'il était
méchant.
C'est une question de couleur de peau.
Il allait tuer sa mère.
Exactement.
Ah ouais. C'était sa maman c'était qui faisait Desdemone. Ouais, donc elle me voyait trucider la maman. Elle m'a dit, papa, fais plus ce rôle-là.
Quelle est la première chose que fait Roberto Alagna le matin au saut du lit?
Il s'étire, je sais pas.
Non.
Il chante, non. Il parle pas, justement.
Alors,
il ne dit rien. Il le chuchote.
Non, il chante. On va prendre ça en fait. Oui,
il articule mais il chante pas.
Non, il chante.
Non, vous chantez. C'est, non,
en c'est fait, pas, c'est pas spécial.
Alors, c'est pas ça.
Il salue le soleil.
C'est pas exactement chanter, mais c'est un rapport avec le chant. Ouais.
Des vocalises.
Non.
Il émet un son.
Une note.
Il
pour entamer.
Il émet un son, non. Il ronronne.
C'est un mi. Commence la journée par un.
Qu'est-ce qu'on accepte dans toutes ces réponses-là? Parce que
oui, c'est un peu tout ça. Parce qu'en fait, c'est mentalement. J'entends la note mentalement sans la faire.
D'accord.
Et je sais en pensant, en respirant comme ça, je sais que la note va être là. Donc je sais que la voix sera là.
Vous testez votre voix.
Voilà,
en fait.
Je teste ma voix mentalement.
Vous voulez savoir si au matin, au réveil.
Voilà. Déjà, la première chose que je fais en vérité, c'est que je remercie le ciel. D'être encore là et que c'est pas seulement d'être là mais que
d'avoir la vie d'avoir la vie que vous avez en fait
pas cette vie là mais on se rend pas compte que c'est quand même miraculeux de se réveiller tous les matins. C'est quand même formidable.
Mais pardon,
qu'on l'a fait la veille.
Vous avez peur de, mourir dans votre sommeil?
Non, pas pour moi. Je trouve le fait que les planètes tournent, que y a le jour arrive, que un nouveau jour. Je trouve ça miraculeux.
D'accord.
Voilà. Tout pourrait s'arrêter. Et je trouve que c'est quand même formidable de se réveiller tous les matins. Ben, on est encore là. On est encore sur cette planète. Là, tout tourne.
Il y a le soleil, il y a les oiseaux, il y a la nature.
Il y a les oiseaux. Il y a
trop de drogue.
Voilà. Et que ça dure depuis des milliards d'années. Je trouve ça miraculeux.
Très positif.
Et pour en revenir à cette voie, est-ce que vous avez besoin d'une hygiène de vie particulière, de faire attention, j'imagine, à tous les maux que l'on peut, encore plus en hiver, tous les miasmes, les angines, les rhumes, les
grippes.
Oui, c'est difficile. Il faut faire attention, il faut la protéger. Mais le problème, c'est que, vous savez, moi, je suis quelqu'un j'ai une proximité avec les gens, et donc les gens viennent me voir, ils m'embrassent, etc. Souvent, par exemple, arrive la première et on dit, ah, c'est marrant, il a attrapé un truc à la première. Mais c'est normal parce que on fait les répétitions. On est tranquille entre nous, et puis arrive la générale, tout le monde vient m'embrasser, le selfie, le machin, et trois jours après, la première, je suis malade.
Et c'est comme ça qu'on attrape des...
voilà,
mais
voilà.
Est-ce que vous faites attention en prenant, je sais pas, des huiles essentielles, en ayant
j'essaie de prendre des vitamines, c'est-à-dire vitamine C, un petit peu de
magnésium,
fer, calcium, magnésium, enfin des trucs comme ça, de temps en temps, et puis moi je suis obligé de prendre souvent, vous savez, des anti... comment ça, comme le Kestin pour les allergies, genre...
Antihistaminique,
voilà. Donc je suis obligé parce que dès que c'est encombré dans la région du sinus, et ben ça résonne plus. Voilà.
Ah ouais.
Est-ce que c'était ouais. Bref. non mais ça va me revenir. Renaud Capuçon qui nous
c'est
avait
pas chanteur,
nous, non mais qui nous avait dit à ce micro que lorsqu'il était malade, d'arriver sur scène, d'un coup, il y avait comme une espèce de réflexe de son corps, où si par exemple il avait une quinte de toux, d'arriver sur scène, de prendre son violon, la quinte de toux disparaissait jusqu'au final où il ressortait et se remettait à tousser.
C'est vrai. Est-ce que c'est le cas pour vous ? Ça arrive avec des douleurs.
Tellement la concentration est forte.
C'est l'adrénaline en fait. C'est l'adrénaline qui est une sorte d'anesthésie. Hein. Mais la différence avec Renaud, que j'aime beaucoup et qui est un ami, c'est que lui, son instrument, quand il le pose, son instrument se repose, il n'a plus rien à voir. Nous, notre instrument, on l'a tout le temps. Là, je suis en train de l'utiliser.
Les cordes vocales.
Vous voyez les cordes vocales. Donc, c'est ça la difficulté du chanteur.
Faites-vous attention
qu'on n'est jamais au repos.
Faites-vous attention, justement, de préserver des jours de silence.
Oui, avant de chanter, souvent, il m'arrive de faire quelques heures de silence, de ne pas parler ou de parler moins. Il faut faire attention. En tout cas, j'essaie de jamais m'emporter, de me mettre en colère, de crier, parce que tout ça, c'est très mauvais pour la voix. On peut, même en éternuant, on peut s'abîmer les cordes vocales. Donc c'est très dangereux.
En éternuant.
Oui, oui.
Tu cries parfois quand t'éternues.
Il suffit d'éternuer, même quand on...
De mal éternuer, en fait, c'est ça.
C'est trop fort. Moi, je sais que quand je sens que l'éternuement arrive, je le contrôle. Voilà. Je le place dans les cabines.
Vous faites quelle note en éternuant?
C'est marrant, il faut que je vérifie ça. J'y ai jamais pensé. Je vais vérifier la prochaine fois.
Pourquoi Roberto Alagna, à l'âge de 9 ans, a retiré toutes les cordes de la guitare de son papa?
Il en avait marre.
Parce qu'il voulait, il voulait chanter. Ouais.
Non, il en avait marre parce que papa jouait mal.
Bah, il jouait pas très bien. Bah, lui, il s'en rendait pas compte. Il jouait son truc. Mon père, c'était plus un chanteur, quoi. Donc, il était là. Il fallait faire du bruit. Bon, il faut dire que tous les autres membres de la famille, il y en a qui prenaient des tambours, il y en a qui prenaient des casseroles. Vous imaginez le truc.
Il fallait s'en sortir.
Voilà, il fallait s'en sortir. C'était qui faisait plus de raffus. Et donc, moi, je sais pas. J'adorais la guitare. Et donc, ça me dérangeait ce truc-là. Et je voyais que mon oncle jouait bien. Mes autres oncles jouaient. Et dès que mon père jouait un petit peu, ça c'était pas génial. Donc, mais ce qui est fabuleux, c'est que donc j'ai retiré les cordes, il m'a jamais rien dit.
Oh, le message.
Et c'est fabuleux, c'est là la grandeur de mon père, la noblesse de mon père. Il a continué à jouer de la guitare en tapant dessus, sans les cordes. il battait le rythme. Et là, c'était bien.
On lâche rien.
Roberto Alagna chante et rend hommage à Caruso. Ça file les poils quand même. Hein. Ça file les poils. Comment vous avez travaillé cet album? J'ai lu dans une interview que vous aviez réécouté beaucoup la voix de Caruso sans chercher à l'imiter, mais en tout cas pour vous inspirer.
En fait, Caruso me suit depuis toujours. Hein. J'ai toujours écouté Caruso depuis des années. Et dans tous mes disques, il y a quelque chose de Caruso à chaque fois. Sauf qu'ici, j'ai voulu vraiment... rendre hommage en adoptant son style, comme on adopte le style Puccini, Mozart ou Verdi.
Alors c'est quoi le style Caruso ?
C'est un phrasé, c'est une façon d'émettre le son, c'est une façon de projeter la voix, c'est une spontanéité dans le chant, c'est une musicalité, c'est une façon de respirer, c'est une façon d'amener les aigus.
Vous êtes allé contre nature, vous ne faites pas du Roberto Alagna, vous faites du Caruso.
Exactement, c'est comme si je rentrais dans un costume sur mesure fait pour quelqu'un d'autre. Donc c'est très difficile, puisque chacun de nous, on a une capacité pulmonaire, une façon, un rythme cardiaque, tout. Et donc c'est très, très très difficile à faire. Et ce qui était curieux, c'est que quand on enregistre, on a sa propre voix dans notre cerveau. Quoi. On entend notre propre voix. Là, j'enregistrais et j'entendais la voix de Caruso. C'était assez perturbant. J'entendais plus la mienne. Et ce qui était difficile à faire, c'est qu'il fallait pas non plus trop se rapprocher de l'imitation parce que ça devient une caricature. C'est ce que j'avais fait il y a 10 ans. J'avais commencé ce disque il y a 10 ans et j'avais enregistré 10 morseaux avec Yvan. J'ai tout jeté à la poubelle, on reconnaissait ni Caruso ni moi. Donc je me suis dit.
C'était quelqu'un qui faisait comme s'il était.
C'était autre chose parce que j'avais fait aussi les tics.
Ça sonnait faux pour vous ? C'était pas sincère ?
Non, c'est pas ça, c'est que j'avais imité sa façon aussi de son accent, sa façon de dire les mots, ses tics vocaux. Et ça devient de la caricature. Après, c'est de l'imitation pure, et c'est pas bon, parce que le public ne reconnaît plus ma voix. Là, c'est le juste équilibre. C'est-à-dire que les connaisseurs de Caruso entendent Caruso. Et ceux qui aiment Roberto, ils l'entendent aussi. Voilà, donc c'est la juste mesure. Et ce qui est formidable aussi, c'est le voyage. Parce que Caruso a enregistré de 1902 à 1920. Il est mort en 21. Il était jeune d'ailleurs, il avait 48 ans. Et ce que j'ai fait, c'est on a un son moderne aujourd'hui avec la chanson de Lucho Dalla, qui est une chanson que Caruso n'a pas chantée. Et on arrive en, à 1902, donc on part de, on fait la chronologie inverse, à rebours. Et on finit avec un son vintage, avec une chanson napolitaine, emblématique du ténor napolitain, avec piano et avec le vieux son de Caruso. Voilà, et donc on remonte le temps et on s'aperçoit que c'est un document, en fait, ce disque. C'est voir l'évolution technologique de l'enregistrement et l'évolution technique
du travail de Caruso.
Vocal, voilà. Ouais.
On va réécouter quand même ce que faisait Caruso.
Ça, c'est pas lui, c'est la basse. Ça, c'est Caruso.
Peut-être que sur... Ça, c'était du Verdi. Peut-être que sur La Bohème, on va mieux l'entendre.
Alors ça, c'est particulier. Hein, je vais vous expliquer. C'est bien que vous ayez choisi ça. Je vous explique. Parce qu'en fait, ça, c'est pas un air de ténor. C'est l'air de la basse dans La Bohème. Et dans la légende, on dit que Caruso a chanté cet air-là de dos parce que son ami... qui interprétait le rôle de Colline était aphone et personne ne s'en est aperçu, donc il a enregistré cet air qui est un air de basse et c'est ce que j'ai fait aussi dans le disque pour rendre hommage à Caruso. J'ai chanté aussi dans la tessiture de basse
La Bohème, donc
voilà. Voilà, ça c'est moi.
Ce qui est fou, c'est que Caruso a réussi à devenir un nom commun. On dit c'est
exactement
un Caruso. Quand
c'est
on
Caruso
voulait parler de quelqu'un et faire un compliment, on s'adressait comme ça. Et pourtant, c'était dans des années où la communication au début du siècle n'était pas celle que l'on peut avoir aujourd'hui.
C'est le premier ténor moderne parce qu'il a compris l'importance de l'enregistrement. C'est le premier à avoir enregistré autant de disques.
Il
a fait
300
à peu près.
Il est aussi riche aussi d'avoir tiré une vraie fortune de ça.
Oui, parce que bon, au départ, c'était les balbutiements de l'enregistrement et donc c'est ce qui l'a fait connaître dans le monde entier. Mais ce qui était important, c'est que la voix fonctionnait. Elle était phonogénique. Voilà.
Oui. Alors qu'il y avait il y avait une marque Caruso, on reconnaissait.
C'est-à-dire que c'était plaisant à écouter. Alors que quand on écoute d'autres chanteurs, des sopranos, des barytons ou même des ténors avant lui, il y a quelque chose qui grince, quoi. Il y a quelque chose qui irrite et qui est pas facile, qui embellit pas la voix. Lui, non, ça fonctionne. Et donc, c'est ça qui a rendu. Et c'est le premier à avoir vendu 1 million de copies de Mattinata accompagné par le compositeur, Leon Cavallo. Donc, c'est assez fabuleux parce qu'en plus, il est contemporain des grands compositeurs qui nous font rêver aujourd'hui.
Voici le fameux Mattinato.
L'aurora di bianco vestita, già ruscio di schiude al gran sole.
Donc, les compositeurs travaillaient pour lui?
Oui, bien sûr. On sait pas qu'il travaillait pour lui, mais quand il composait un opéra, on se disait, bon, on va faire ça pour Caruso. C'était quand même la star. Vous voyez, moi, j'avais pas le compositeur sous la main, j'ai pris Cassard.
Roberto Alagna est notre invité. Quand on a Roberto Alagna, Caruso et puis tous ses compositeurs, on imagine aisément, et vous l'entendez, la qualité de ces enregistrements. Le disque est à peine sorti, non? Il est tout frais, tout chaud.
Vous savez ce qui est intéressant aussi dans cette démarche, c'est la même démarche que lorsque on fait les opéras baroques avec l'orchestre, avec les instruments d'époque,
musique ancienne.
Voilà, musique ancienne, c'est la même démarche. C'est comme quand on prend des métiers qui n'existent plus et on essaie de les restituer dans la... C'est comme si on faisait du feu avec des silex. Vous voyez, c'est un peu ça. Quoi.
Ça reste un travail d'artisan, donc, pour
vous. Oui. Et il y a quelque chose en même temps de l'ordre du documentaire dedans. C'est intéressant.
C'est plus que l'hommage, oui, c'est ça.
Voilà, c'est pas seulement un hommage. Voilà, c'est un témoignage.
Et même pour vous, il y a quelque chose de plus.
Parce moi, j'ai appris énormément.
Parce que l'itinéraire aussi de Caruso, individuellement, il est quand même pas si éloigné du vôtre.
Oui, c'est vrai qu'on a un peu les mêmes destinées, le même départ.
Vous commencez à chanter dans des restaurants, dans des cafés. C'est exactement votre histoire, en fait.
Oui, tout à fait, c'est un peu ça. C'est vrai. Mais bon, j'ai la chance d'être déjà plus vieux que lui.
Il était mécano. Il travaillait dans un garage au début. Il était mécano.
Oui, il a fait un peu tout. Il transportait de la farine. Enfin, il faisait un peu de tout.
Mais il se soignait un peu moins côté voix. Il était moins sérieux.
C'est pas... Non, au contraire.
Il buvait un peu. Non,
c'est pas ça. C'est que c'était encore. Vous savez, à l'époque.
Oui, il fumait. Ouais.
Oui, il fumait. Donc c'était la mode. On savait pas encore que ça créait autant de problèmes. Mais il se soignait avec du pétrole. C'est quand même assez incroyable. Il faisait un mélange avec de l'éther, du pétrole.
Ouais,
le pétrole, on s'en servait à l'époque comme d'un médicament. C'était quelque chose de nouveau. Et voilà. Donc on pensait que c'était bon pour le. Et donc avant de chanter, il prenait un verre de whisky, après un verre d'eau, et puis il se pulvérisait avec un mélange d'éther, de pétrole, et à mon avis, ça a endommagé un petit peu l'instrument.
Vous croyez? Roberto Alagnan est avec nous jusqu'à 12h30, voici les révélations de François.
Salut les amis, salut Nagui, et coucou Roberto. Nagui, en tant que chanteur, je n'ai jamais été aussi enchanté de recevoir un artiste lyrique au talent aussi merveilleux. Je ne peux pas citer tous les airs de cet album, mais tu sais Roberto, en écoutant ton Domine Deus de Rossini, je me suis agenouillé. Quand tu as entonné « Aux lumières du jour » de l'opéra Néron, je me suis mis à trembler comme une feuille. Avec la romance de Nadir, des pêcheurs de perles, tu m'avais déjà bouleversé. Mais là, en italien, tu m'as carrément fait chialer de bonheur. Alors, si les François chanteurs, dont je suis la vivante synthèse, Jean-Pierre François, François Valéry, Frédéric François,
oui,
François Pellemin,
oui,
François, François Hardy, si les François sont nombreux, une chose est sûre, il n'y a qu'un seul et unique Roberto. Un enthousiasme que je souhaitais partager avec mes amis de la bande originale, mais quand j'ai demandé à Daniel s'il avait écouté cet hommage à Caruso, il m'a rétorqué « J'aurais préféré un hommage à la Rousseau ». Comme j'insistais en lui disant « Quand même, tu devrais écouter Roberto chanter « Mamma mia che vos sape ». Il m'a sorti « Déjà que j'ai du mal à supporter Maître Gims quand il chante sapé comme jamais, je vais pas farcir la version napolitaine ». Bref, cher Roberto, ce n'est pas ici, hélas, que peut être apprécié à sa très grande valeur. Ta voix tendre et sonore comme un chant de ramier, large et nuancée à la fois, aux aigus faciles et au timbre aussi puissant que rond, exceptionnel d'élasticité, de lumière et de suavité, servi par une maîtrise parfaite du souffle, sans parler de la clarté de ta diction et de l'éloquence, sans emphase de ton phrasé qui ensoleille cet automne sinistre. Oh putain, nom d'un pipeau, ça c'est de l'éloge vibrant, pas écrit avec du sang de navet. Autre chose, me soufflait tout à l'heure Leïla, autre chose que les besogneuses démonstrations pseudo-musicologiques de Jean-François Zigel dans la preuve par Z. Et Nagui d'ajouter, je le cite, oui, par Z, comme zéro. Voilà, cher Roberto, malgré tout ça, bonne émission.
Merci.
Nagui, la bande originale.
E tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Che voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai, è una catena ormai, bacio il sangue di in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma eran solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Senti il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza,
quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima che credette di affogare. Te voglio per assai, ma dando tanto bene sai, è una cadena ormai che scioglio sangue di
Vous êtes bien dans la bande originale, c'est avec Roberto Alagna que nous passons cette bande originale et toute la bande autour de lui. T'as une drôle de tête.
Non mais là je vais vous surprendre Nagui.
Quoi ?
J'ai passé un bon moment.
Oui, c'est vrai que ça me surprend.
Oui, je vous assure. Oui.
Est-ce qu'on se met pas quand même une pression Roberto Alagna quand on justement se frotte à l'interprétation de Caruso et...
Oui, bon, c'est normal. Bon, je suis pas le premier à l'avoir fait non plus. Hein. Domingo l'avait
non,
fait
mais
avec moi.
La preuve, avant moi. Vous avez enregistré il y a 10 ans, vous les avez jetés. C'est-à-dire que vous vous êtes aussi mis à la place d'un amoureux de cette musique ou peut-être d'un critique, peu importe. Vous avez dit non, ça c'est pas possible, c'est pas permis. Donc vous avez fait un petit pas en arrière en jugeant votre propre interprétation.
Oui, parce que c'est pas évident de rentrer dans le costume d'un autre. C'est pas facile à faire. Je l'avais fait avec Mariano, c'était pas facile non plus.
Mais pourquoi ce parti pris ? Pourquoi pas se dire simplement je vais interpréter des titres pas à sa manière, à lui, à la mienne ?
Parce que ça a déjà été fait, ouais. Et je trouve que c'est pas intéressant, ça. Parce que, en fait, si on écoute toute ma discographie, j'ai rendu hommage tout
absolument.
Le temps à Caruso, puisqu'il a quasiment
a
chanté.
Traversé tous vos disques, ouais.
Tous les disques. Donc, il a tout chanté, les Toscales et tout ça. Donc, on le fait tous, de chanter à notre façon. Mais là, ce qui était intéressant, c'était de montrer la supériorité de cet artiste. La supériorité. Et plus j'avançais dans mon travail, plus je me rendais compte qu'il était hors norme.
Ça a changé votre façon de chanter maintenant ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc j'y pense. Et de temps en temps, je suis obligé de gommer parce qu'il y a des réflexes qui viennent maintenant. Et donc je fais attention de pas chanter à la Caruso non plus. Donc par exemple, quand je vais faire mon concert hommage à Caruso ici au Théâtre des Champs-Élysées, je chanterai à ma façon parce que sinon, je vais rentrer. Vous savez, ça, c'est le risque. On s'habitue, on prend des automatismes. Et ça devient dangereux ensuite.
Ça doit ne plus être soi, finalement.
C'est pas ça, c'est que à partir du moment où vous essayez de faire une pas une imitation, mais de chanter à la façon de quelqu'un d'autre, c'est vous dénaturez un peu votre instrument. Oui. Chacun de nous, on est unique et on a une façon d'émettre le son. C'est pour ça que la technique, on parle toujours de la technique, mais en vérité, il faudrait parler de plusieurs techniques. Chacun a sa propre technique, celle que la nature nous a donnée et par rapport à sa morphologie, par rapport à son corps, par rapport à l'instrument qu'on a. Voilà. Donc c'est ça qui est dangereux. Il faut pas aller trop loin. Ça, tous les imitateurs vont vous le dire. À un moment, il y a la voix qui craque, il y a des choses qui ne marchent plus parce qu'ils font un effort supplémentaire en essayant d'adopter le style et l'émission de quelqu'un d'autre. Oh, c'est magnifique.
Et sur votre album, sur cet album, il y a aussi des duos quand même avec votre cher et tendre.
Oui.
Alexandra Kujak, que vous allez retrouver pour le Carmen le 19 septembre.
Oui, avec Béatrice Uria Monzon dans le rôle de Carmen et Alexandra fera le rôle de Michaela. Voilà, donc je suis bien entouré. Voilà, Carmen.
19 septembre, quand vous passez devant le Stade de France, c'est écrit en plus gros que aller la France ou aller les Bleus pour
c'est
le
assez
match
impressionnant, je vous assure. Je suis rentré hier soir et j'ai vu cette affiche.
Impressionnant.
C'est assez impressionnant, oui.
Béatrice Uria Monzon, c'est comme ça qu'il faut prononcer. Monzon, ouais. Alexandra Kujak et vous, Roberto Alagna, pour ce Carmen au mois de septembre.
Et puis,
19 septembre.
300 personnes aussi, hein. Il y a du monde, hein. Il n'y a pas que nous. Hein.
Oui, non, mais ils sont plus nombreux devant que sur scène.
Oui, aussi.
C'est pour ça que vous pouvez faire le spectacle. <C'est vrai. rire> Voici Marina Rollman.
Aujourd'hui, les amis, je voulais vous parler travail. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas vous, mais je
suis débordée. Quoi. Ah. J'ai un vrai manque d'efficience au niveau de mes deadlines. Je vois que j'arrive pas du tout à implémenter un workflow positif.
À quoi ?
Je suis vraiment sous l'eau, quoi.
Implémenter
un workflow. J'ai l'impression que ce genre de conversation, je les ai quasiment tout le temps avec les gens de mon entourage qui bossent dans le tertiaire. Non seulement tout le monde est débordé tout le temps, en plus on invente des mots pour le dire, mais tout le monde se vante de bosser comme des dingues. T'arrives à un apéro, c'est le concours. La première, elle est là. Oh, moi, hier, j'ai fini à 22h, je suis claquée. La deuxième, elle est là. 22h, ben moi, je déjeunais à 22h hier, ma chérie. Ah non, nous, on était charrette pour boucler un dos, j'ai fini à 4h du matin. La troisième, elle est à 4h du matin. Ben moi, j'aurais bien voulu, ça m'aurait fait une pause. Hein. Non, moi, en vrai, là, je suis toujours au taf. Est-ce que vous voyez, c'est un hologramme en fait. Et tu dis, ok, ça va aller. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que tout le monde est si fier de se faire exploiter? Moi, j'arrive pas tous les jours en disant, là là, l'autre jour, j'ai payé un kilo de tomates 150€, j'ai dû leur donner un peu de moelle osseuse, mais ça valait le coup, tu vois, je peux pas. Bon, je crois qu'on le sent tous, hein, avec différents symptômes selon les secteurs d'emploi et les régions, le capitalisme est un petit peu en bout de course. Hein. Sauf que le nœud du truc, c'est la valeur par le travail, la fierté par le travail, voire l'identité par le travail. Si je bosse beaucoup, c'est que quelque part, je dois être une bonne personne. Donc même si on sent bien que ça a de moins en moins de sens, faut continuer, pour ceux qui ont la chance d'avoir du boulot, à moulinés comme des dingues, comme ça. Sauf que selon les secteurs, c'est pas toujours nécessaire. Donc tu te retrouves à justifier ton taf par des contorsions, mon ami. Moi, je le sais parce que avant de faire de l'entertainment, j'ai bossé dans la com, dans la prod, dans l'event. Et ce que tous ces métiers ont en commun, c'est qu'a priori, si le descriptif de ton métier peut se faire avec un mot anglais ou un diminutif, t'es pas en train de sauver des vies. Hein. Quand quelqu'un fait un malaise dans un lieu public, personne n'est là. Y a-t-il un consultant en medicining dans la salle? Un doc? Quelqu'un qui bosse dans le care? Non, personne. Moi, j'ai pu constater donc de ces différents boulots qu'on avait toujours des trucs à faire, tout le temps, moi, quand je bossais dans un truc, mais qu'il fallait pas trop aller gratter sur pourquoi on devait le faire. Ça devient assez vite kafkaïen. Tu te retrouves à faire des réus pour débrief la pré-réu qui va te permettre d'en tirer un PowerPoint pour briefer le client sur le process interne de l'enculage de mouche, finalement, à un moment donné. Il faut l'admettre. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'un tiers du PIB français est généré par des réunions, quand même. Et je blâme pas du tout les gens qui font du tertiaire. Moi, je fais des blagues. C'est pas clairement, si un jour, je veux dire, on doit envoyer l'élite de la planète sur Mars, je vais pas faire partie du contingent. Hein. Ils seront pas là, il nous faut des biologistes, des géologues et quelqu'un sait faire des blagues sur le malaise des urbains occidentaux postmodernes, hein? Des blagues sur les food trucks et la perte de sens? Oui, moi, je le fais bien. Donc voilà, je me mets pas au-dessus des gens qui bossent dans des bureaux, mais en voyant parfois comment ça marchait à l'interne, j'étais vraiment hyper étonnée qu'on n'ait pas encore des gens avec des fourches en bas. Vraiment, quoi. Quand tu bosses dans la com, je suis surprise qu'il n'y ait pas des gens avec des pics et des flammes qui disent « Rendez la thune des réus !» ou « Laissez-nous venir nous en faire avec vous !» Mais je sais pas, quoi. En plus, souvent, ce genre d'activité s'effectue dans des bureaux en open space. Oh là là. Quand tu visites le premier jour, t'es fasciné. Tu trouves ça super progressiste. La meuf qui te fait visiter, elle est là, ouais, ici, nous, on croit pas trop à la hiérarchie, à la distance. On avait envie de créer un truc convivial, généreux, ouvert. Enfin, surtout, on avait pas envie de payer pour des cloisons. Et très vite, tu découvres le drame de l'open space, les tragédies communes et partagées que ça implique. Entendre la vie, les désirs, les drames de chacun de tes collègues. Toute la fucking journée, c'est trop, on n'est pas prêt. Moi, ma préférée, c'était la collègue qui avait faim, tout le temps. C'est qu'elle est à 10h du matin, il y a faim, quelqu'un pour grignoter un petit truc? Non, quelqu'un m'accompagne, un pain au raisin? Non, personne, une petite faim. Au bout de 3 mois, je pétais les plombs, j'étais en pleine crise existentielle. J'étais là, non Cécile, personne n'a faim. On a mangé à 8h, on va remanger à midi. Entre deux, on est vissé à une chaise pour essayer de trouver un prétexte pour foutre toute la boîte en copie d'un mail pour justifier notre existence. Donc non, on n'a pas faim. Et même toi, t'as pas faim, Cécile. T'es juste triste. Voilà, tu comprends pas que le système est foutu, qu'on va tous crever. Et Cécile était là, mais ça veut dire qu'on fait pas la soirée team building au bowling. Enfin, je veux dire. Quoi qu'il en soit, si vous nous écoutez au bureau, bon courage et surtout bonne chance pour cette réu qui arrive là bientôt. Tout le monde. Yeah.
La bande originale. Sur France Inter.
Notre invité, Roberto Alagna, rend hommage à Caruso. Il a fallu faire des choix aussi.
Oui, c'est pas évident quand il y a 300 disques. Ouais. Oui, donc j'ai voulu faire une rétrospective, mais aussi.
Au-delà du côté chronologique à rebours,
il y avait aussi mon goût personnel.
Voilà.
Et puis je voulais montrer un peu l'éclectisme de Caruso dans le répertoire, qui va des chants des traditionnels anciens au baroque, en passant par les chansons de son époque, des chansons composées vraiment pour lui. De la chanson napolitaine, les airs d'opéra, les duos, les trios. Voilà, il y a un peu de tout. Et puis aussi, bien sûr, cette nouvelle chanson de Lucio Dalla là, que j'ai adaptée pour pouvoir mettre dans ce disque, sinon ça fonctionne pas. C'est quand même une chanson pop. et qui fonctionnait pas avec tous ces airs là. Ce qui est intéressant aussi dans l'orchestration, pardon, c'est que vous savez qu'à l'époque de l'enregistrement de Caruso, les cordes ne passaient pas très bien dans les cornets, donc il fallait les remplacer par des cuivres. Et c'est bizarre, donc de refaire les partitions des compositeurs et de rajouter des cuivres, du tuba, enfin c'est assez impressionnant. Et c'est ce qu'on a fait aussi avec Yvan. Donc on a rajouté des cuivres, on a enlevé des cordes. Et voilà, donc c'est un travail. Et puis aussi le tempo, parce que comme c'était sur de la cire, il y avait un temps limité.
En 78 tours, on n'avait pas le temps de tout mettre.
Voilà, de tout mettre. Donc quand on était long, on coupait, on allait vite dans les tempi et tout ça. Et ça donne une urgence qui est assez impressionnante.
Madame de Dante, bene sai, è una catena ormai, bacio il sangue di
Roberto Lagna chante ce Caruso sur son nouvel album, mais Roberto Lagna, écoutez, dans les années 70, début des années 80. Ça pourrait être la bande originale de Casa de Papel aussi. Hein.
C'est tout à fait, tout à fait. En fait, c'est mon père qui était mon premier héros. Hein. C'était lui que j'écoutais au départ. C'est à la maison, il chante les chansons traditionnelles siciliennes. C'est un chanteur exceptionnel. Il a un répertoire qui n'en finit pas. Et moi, je suis petit enfant comme ça, émerveillé d'entendre mon père, même si je lui retire les cordes de la guitare. Voilà la cruauté du fils.
Vous n'avez pas retiré les cordes
voilà,
vocales.
Voilà, mais voilà, c'est ce que j'entends. C'est toutes ces chansons qui ont fait ensuite le disque sicilien qui a été un grand succès. Et dont je suis très fier.
Et on le disait tout à l'heure, vos débuts, c'est à la pizzeria, quoi. C'est devant les clients, enfin les premières scènes. Vous êtes engagé, vous avez une quinzaine d'années.
Oui, j'ai 15 ans quand je commence la pizzeria, mais très vite, à 17 ans, je deviens professionnel dans les cabarets avec mon groupe, avec mes musiciens.
Des musiciens colombiens.
Il y avait au départ des Colombiens et ensuite Mexicains, Espagnols, enfin tout cette communauté un peu sud-américaine.
Vous y repensez quelquefois?
Ah oui, j'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps.
Au Stade de France, vous voulez vous demander combien il y a de Margarita, combien il y a de...
Oui, bien sûr qu'on y pense, c'est un chemin qui est magnifique.
Vient,
Oui, et puis c'est beau, quoi. C'est beau parce que c'est l'insouciance, c'est la jeunesse, c'est la découverte de tas de choses, c'est la découverte de la vie aussi. Vous imaginez, c'est là que j'ai
vu. Vous dites que c'est de la chance ou c'est du travail?
Ah oui, il y a beaucoup de travail, mais il y a de la chance, bien sûr, d'être là à ce moment-là, c'est sûr. Mais vous savez, la chance, il faut la provoquer, et puis il faut surtout la servir, parce que sinon, elle s'en va vite ailleurs. Hein.
Et vos débuts aussi, c'est à Paris, c'est dans des cabarets, c'est chanter toute la nuit, un vaste, vaste répertoire, beaucoup de choses.
Oui, c'était énorme.
Des milieux qui ne sont pas forcément toujours très bien fréquentés.
Oui, bien sûr, hein, c'est le milieu de la nuit, donc il y a un peu de tout. Et pour un adolescent comme moi, c'était assez difficile. Mais bon, ça m'a appris
des réseaux.
oui. Vous savez que j'ai même chanté dans des boîtes à striptease, donc c'est là que j'ai découvert pour la première fois des femmes nues. C'était quand même assez... Je le raconte dans mon livre.
Mais votre oncle était avec vous, je crois.
Oui, il y avait mon oncle. Oui, mais mon oncle, vous savez, il est plus jeune que moi.
Il a
40 jours de moins. Donc c'est quasiment mon frère jumeau.
Mais vous chantiez dans plein de langues en plus, mais forcément toutes les maîtriser d'ailleurs.
J'en maîtrisais pas mal, puisque moi j'en parle 6 maintenant.
Mais à l'époque,
j'entendais beaucoup de langues, puisque c'était les touristes. Donc il fallait au moins, dans les 70 chansons qu'on chantait, avoir au moins une chanson de chaque pays.
Ah oui.
Donc dès qu'on voyait le touriste arriver, hop, allez, là ça passait.
Ça c'est en allemand.
On chantait en arabe, on chantait en hébreu, on chantait en espagnol, en américain, enfin tout quoi.
Est-ce qu'il y a eu un jour dans votre vie où vous avez le sentiment que tout a basculé?
Non, en fait non, parce
tout
que
tout s'est fait progressivement.
Oui, en fait, j'ai jamais rien demandé. C'est ça qui est assez incroyable. Et tout ce que j'ai reçu, c'est beaucoup plus.
Vous êtes battu quand même pour être là où vous en êtes aujourd'hui.
Oui, mais je me suis battu avec moi-même parce que les choses sont. Je me suis même des fois éloigné de ce métier et il y avait quelque chose qui me ramenait tout le temps. C'est comme si je prenais des chemins de traverse et puis hop, on me remettait sur le bon chemin, quoi, le chemin de l'opéra. Mais c'est curieux parce que j'étais un enfant timide et donc je n'osais même pas rêver.
Ouais.
ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai reçu beaucoup plus que ce que j'avais rêvé.
Ce à quoi vous attendiez.
Il faut dire que vos parents voulaient pour vous un métier propre.
Oui, ma mère a toujours peur. Elle a toujours peur. D'ailleurs, je me dis tout le temps, mais ah là là, t'aurais dû faire un métier tranquille, tu rentres à la maison le soir.
Il y a quelques signes qui peuvent la rassurer.
Oui, elle est très fière.
Un métier propre aussi, ça veut dire.
Oui, un métier propre. Ça, le métier propre, c'est parce que dans ma famille, il y avait beaucoup de maçons. Et puis, on avait un oncle qui était devenu chef comptable. Donc, lui, il revenait en costume cravate et il disait, mais il faut que tu fasses un métier propre comme Salvatore.
Sauf que lui, il est en open space maintenant. Ouais. Il fait des PowerPoint.
Des
en
réunions.
97, c'était pas la bohème de Puccini que vous écoutiez, mais la bohème d'Aznavour.
La bohème. La bohème. Ça voulait dire.
La chanson.
On est heureux. La bohème.
Qu'est-ce que
c'est une chanson magnifique.
Qu'est-ce que vous évoquez. C'est Aznavour qui vous
c'est
touche.
Tout, c'est
son interprétation.
Tout me touche. En fait, vous savez qu'au départ, c'est une opérette. Non, c'était Guettari qui chantait dans Monsieur Carnaval. Voilà, dans Monsieur Carnaval, c'est un air d'opérette. Et ensuite, c'est devenu le succès qu'on connaît avec Aznavour. Moi, Aznavour, vous savez que je l'ai connu, on a été voisins, on est partis en vacances ensemble. C'est quelqu'un que j'ai adoré, on était très proches. Et j'ai même chanté cette chanson avec lui. On avait enregistré cette chanson et puis elle est jamais sortie. Bon, moi je la possède cette chanson.
Ah oui, c'est un document.
Ouais, c'est dommage parce qu'elle est très belle et on avait fait ça ensemble. Ensuite, j'ai eu l'occasion de la chanter sur scène moi-même. Mais je trouve que cette chanson c'est ma vie aussi. C'est ce qu'on était quand on était gamin, quand on rêvait. On était on n'avait pas d'argent, mais on se fichait de tout. On savait qu'un jour, bon, on aurait ci, on aurait ça. On rêvait. Et c'était fabuleux, moi, de me retrouver dans ma banlieue et puis de savoir que bah, peut-être qu'un jour, j'irai à...
Alors, vous dites on n'avait pas d'argent. Ça veut dire on se contentait de ce qu'on avait ou on rêvait d'avoir plus?
Non, moi, j'ai jamais rêvé d'argent. Et je vais vous dire un truc, j'ai connu zéro dans les poches pendant des mois. J'avais zéro. Impossible de demander de l'argent à mes parents. C'est pour ça qu'après j'ai fait des restaurants, des cabarets, parce que on n'a jamais eu de bourse.
Par fierté de pas demander.
Ça se faisait pas. Je sais que mon père travaillait, il était tout seul à travailler. Ma mère avait les enfants, elle gardait des enfants et tout ça. Bon, c'était un travail énorme. On était une grande famille. On n'avait jamais eu de bourse, jamais d'aide de l'État, jamais rien. On s'est débrouillé par nous-mêmes. Mon père travaillait jour et nuit toute la semaine. Et souvent, moi, ça m'arrivait de rentrer de l'école et d'avoir un camion à décharger parce que pour que mon père puisse travailler la semaine. Vous voyez, donc j'avais 10 ans. Donc j'ai connu tout ce truc-là. Mon père a commencé à travailler à 6 ans. C'était difficile. Donc j'ai connu ça, j'ai connu vraiment d'avoir zéro dans les poches.
Comment vous avez transmettre ces valeurs à vos enfants, sachant qu'ils ont la chance d'être élevés sans avoir à décharger des cagettes à 10
voilà,
ans.
Ben, on en parle en transmettant ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai fait aussi ce disque sicilien, pour savoir d'où on vient, qui on était.
Pas oublier.
Moi, on est arrivé en France, vous imaginez que mon grand-père est arrivé en France parce qu'il voulait rembourser un crédit qu'il avait fait pour acheter une chambre à coucher. C'est comme ça qu'il est arrivé en France, pour pouvoir rembourser. Et puis ensuite, il a vu que ses enfants mangeaient à leur faim. Il a dit, bon, ben, écoute, on reste. Voilà. Mais je me souviens, c'était tous les ans, on disait, bon, l'année prochaine, on s'en va. L'année prochaine, on s'en va. Et puis, on est resté.
Et puis, vous êtes resté.
Et puis, on est heureux d'être là.
Et ouais. Et en 97, pour reprendre cette année-là de votre vie, c'est votre première victoire aux victoires de la musique classique.
Oui, oui.
C'est le début d'une longue histoire avec les victoires. Là, c'est l'artiste lyrique de l'année. C'est une récompense qui veut dire beaucoup dans le métier.
Oui, surtout que moi j'arrivais de nulle part, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui encore je dérange énormément parce que je fais pas partie. Enfin, vous savez, on dit qu'il faut avoir la carte, etc., etc. Moi, j'ai jamais eu la carte. Ah non, moi je suis à part, je suis une sorte d'ovni dans ce métier.
Vous êtes la carte.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Croyez-moi.
Il y a du snobisme.
Je suis toujours un petit peu à part, toujours attaqué, toujours
pas aimé.
Dans tout.
Non, vos premières.
Je suis aimé du public, c'est ça qui est formidable. J'ai un public qui me suit depuis maintenant 36 ans, c'est quand même assez incroyable. Mais souvent, les critiques, les journalistes, les soi-disant spécialistes, les fameux, je sais pas, puristes, tout ça.
Et qu'est-ce qu'on reproche?
On a du mal. Bah, mon côté atypique, mon côté venir de nulle part, mon côté touche à tout, mon côté franc, mon côté Rital aussi. Il y a ça.
Carrément.
Ah,
bon,
c'est,
si,
ouais.
C'est côté populaire.
Bah, tiens,
aussi,
il y a quelque chose. J'ai jamais réussi à comprendre. Ouais. Alors,
on va demander à Jean-Baptiste Urbain. Bonjour, Jean-Baptiste.
Bonjour, France Inter. Bonjour, Nagui.
Bonjour, France Musique. Vous êtes donc dans la matinale de France Musique, Musique Matin, du lundi au vendredi de 7h à 9h. Là, pratiquement, c'est le début de la nuit pour vous, à 11h52. Roberto Alagna disait qu'il n'avait pas la carte et qu'il n'était pas aimé de tout le monde. Et là, je vous voyais hocher la tête en disant, ouais, en effet, il y a des gens qui ne l'aiment pas.
Qu'est-ce
qu'on lui reproche?
C'est le cas avec beaucoup de ténors, mais c'est vrai que c'est le cas avec certains ténors qui ont plus la carte que d'autres, peut-être. Non, c'est vrai, peut-être le côté populaire et puis le côté franc-parler aussi. C'est vrai que Roberto, vous l'avez entendu depuis 11 heures, il mâche pas ses mots, il dit ce qu'il pense, et parfois il y en a qui sont plus réservés.
Donc, le côté star aussi.
Des phrases
c'est une
aussi,
star.
Parfois, quitter dire qu'on n'aime pas un metteur en scène, qu'on n'aime pas sa mise en scène.
Non, je l'ai jamais dit ça. Non. Au contraire, je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de mises en scène que je n'aime pas, mais une fois que je suis dedans, je les défends tout le temps. Tout le temps. J'ai fait le roi Artus que je n'aimais pas du tout, j'ai défendu comme je pouvais. Il y a des tas de mises en scène que je n'aime
pas. Mais avez-vous déjà quitté une scène énervée ?
Jamais. Et j'ai toujours eu un excellent rapport avec les metteurs en scène. Même maintenant avec Don Carlos, qui était une production un peu difficile, on a eu un super rapport avec le metteur en scène, il était super content, et voilà, et j'ai essayé de défendre sa production à ma façon.
Alors parlons de Caruso, s'il vous plaît, Jean-Baptiste, on a essayé de le définir depuis le début de cette émission, pour vous, le spécialiste, qui était Caruso? C'était vraiment un être à part?
Alors, je suis sûr que je suis beaucoup moins spécialiste que Roberto, qui le connaît sur le bout des doigts. Oui, c'était un être à part. C'était une star, peut-être la première grande star de l'époque, grâce au disque, vous l'avez évoqué, parce que au-delà de toutes les musiques, c'est le premier à avoir enregistré. On est en 1902, il va enregistrer de la musique classique, du lyrique, mais aussi des chansons.
Alors,
dès le début.
Très bien, on devient star, mais comment rester star? Comment rester mythique? Comment rester culte à travers les siècles, justement?
Alors là, on a un siècle pour voir, on verra plus tard, mais sur un siècle, en tout cas, je pense qu'il y a, c'est une recette, en fait. Il y a à la fois cette voix incroyable, on dit le ténor du siècle, la plus grande voix de tous les temps, et puis il y a une vie, des circonstances, en effet, l'histoire du disque, il y a le fait d'avoir accepté de faire des choses populaires et d'être écouté par le plus grand nombre.
Mais je crois que c'est pas explicable, c'est inexplicable, le cas Caruso ou ce niveau-là. Si vous allez sur YouTube aujourd'hui, c'est quand même assez impressionnant, il y a des millions de vues sur Caruso. Il n'y a personne d'autre, dans les grandes stars des ténors du passé, même Callas et tout ça, personne n'a autant de vues que Caruso. C'est quand même assez impressionnant. C'est lui qu'on utilise dans Match Point, Woody Allen, pour faire la bande sonore. On a construit un théâtre dans la jungle pour lui, un dingue.
Alors vous parlez d'Internet, si Internet avait existé à l'époque de Caruso, il aurait eu son affaire MeToo aussi, Jean-Baptiste?
Alors, c'est ce qu'on dit, il y a eu une histoire avec une femme mariée.
Oui, dans un zoo, mais bon, c'était...
On n'a jamais su l'histoire, d'ailleurs, de cette femme.
Il paraît qu'il aurait mis la main aux fesses dans un zoo d'une une femme. Mais ensuite, on a su que c'était qu'en fait on voulait faire de la publicité. On voulait faire de la publicité, vous savez.
Sa vie privée
était exposée. Il a eu une vie tumultueuse. Il a été marié plusieurs fois. Ouais. Mais bon.
Ça fait partie de la légende aussi, d'ailleurs.
Exactement. Alors la légende, il chantait avec ou sans micro?
Ah là, il a chanté devant cette espèce de cornet où tout le monde se mettait autour, y compris des instruments à cuivre plutôt que des contrebasses pour qu'on puisse entendre tout le monde. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a chanté dans des salles immenses, Yankee Stadium à New York, paraît-il, sans micro et sans ampli.
Il y avait un micro à Madison Square Garden, mais c'était les débuts du micro. Mais c'est normal, il y avait 100 000 personnes, il était à l'extérieur.
Donc, et il a connu quand même le succès de son vivant. Il est mort jeune, on l'a rappelé tout à l'heure.
48 ans.
En pleine gloire.
Il a fait des films.
En pleine gloire. Et puis, alors, il avait dit qu'il allait arrêter à 50 ans. Il est mort 2 ans plus tôt.
C'est pas ça, c'est qu'en fait, il était très attaqué. Très, très attaqué. D'ailleurs, quand vous lisez la correspondance de Caruso avec son épouse, sa dernière épouse Dorothy, c'est incroyable de voir cet homme qui est la star internationale, qui doute de tout. Il écrit à sa femme, aujourd'hui, j'avais un chat dans la gorge, j'ai raté cette note, machin, je suis fini, machin. Il va voir Tito Skipa.
C'est le cas de la Callas aussi.
Il va voir Tito Skipa, qui était un nouveau ténor. Il va au récital, il s'en va à la moitié parce qu'il dit, il est meilleur que moi, il en avait presque honte. Donc, voilà, c'est le côté humble en même temps.
Et rempli de doutes.
Et rempli de doutes. c'est fabuleux de voir cette correspondance avec son épouse. En fait, il est hyper humain et il sait où il va. Il sort de l'opéra. Les Italiens sont là. Ils n'ont pas pu prendre un billet. Ils n'avaient pas d'argent. Ils montent sur le toit d'une voiture et ils commencent à chanter pour eux. Mmh. C'est fabuleux, quoi.
Vous diriez quoi à un enfant de 8-9 ans, Jean-Baptiste, si vous deviez parler de Caruso?
Bah, je dirais que c'est quelqu'un qui avait ce naturel. En fait, il y a ce truc chez les ténors, que ce soit Roberto, que ce soit Caruso.
Non, mais pourquoi avec un enfant d'être touché, d'être ému par une voix, un enfant de 8 ans qui n'a pas encore écouté d'opéra. Vous avez dit, il faut que je te fasse écouter Caruso parce que.
Bah, parce que au-delà des petits crachements qu'on entend sur des enregistrements aujourd'hui, ouais. Il y a quelque chose qui passe et un effet qui est indéfinissable. Et quand on écoute, malgré ce son qui est très différent du son d'aujourd'hui, il y a ce truc indéfinissable de naturel qui accroche tout de suite l'oreille et qui accroche aussi quand on écoute Roberto.
Moi, je dirais encore autre chose. Je dirais à ses enfants, vous connaissez Spider-Man, vous connaissez Robin des Bois, vous connaissez Zorro. Eh ben, écoutez Caruso, c'est encore plus fort. Il chante mieux.
Non, mais c'est la première des stars.
Je sais pas si ça marche complètement, ça, Roberto.
Ouais, c'est vrai. Jean-Baptiste a raison, c'est la première.
Grâce au disque.
Absolument. Et aux enregistrements. Musique Matin, c'est de 7h à 9h, du lundi au vendredi, sur France Musique. Merci, Jean-Baptiste Urbain, d'avoir. Veillez pour venir à ce micro. Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Vous allez nous parler, vous, des doudounes, mais les doudounes sans manches.
Oui, c'est sûrement le vêtement le plus moche du monde, devant le t-shirt du super papa offert par tes gosses ou la tongue. Porter une doudoune sans manches, ça signifie qu'on n'est plus sur le marché du sexe, qu'on attend la mort en étant le plus fat possible. En Arabie Saoudite, porter une doudoune sans manches est passible de 14 000 coups de fouet.
Tu me parles. On en reparle après les infos de midi.
Oui.
Bonjour à toutes et à tous, la bande originale avec Leïla Kadrou-Boutadi, Daniel Morin, c'est reparti avec notre invité du jour, Roberto Alagna.
Prends pas de vacances la petite Clémentine là, les infos, parce que heureusement qu'ils ont ouvert un bar, à France Info, sinon il y aurait de quoi déprimer.
Personne. Sera là toute l'après-midi, elle sera là, t'inquiète pas. Ouais. Roberto Alagna est venu nous enchanter avec son dernier album, Caruso, 1873. Le 6 février prochain, en 2020 déjà, comme le temps passe vite, vous interpréterez,
c'est dur comme mot,
cet album,
c'est vrai.
Caruso 1873, ouais. Parce que c'est l'année
de naissance de Caruso.
Sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées, comme vous l'avez dit, ça sera pas forcément la même interprétation que là.
Oui, ça sera un peu différent.
Ferez-vous tout l'album, parce qu'il est très riche cet album.
Il y a, et puis en plus, 20 titres, ouais, c'est assez copieux. Mais c'est fantastique. Tout à l'heure, vous avez mis un petit bout de Parce que, qui est Because en français. Et ça, c'est intéressant.
Écoutons-le.
Voilà, c'est ça.
Parce que Caruso parlait français ?
Voilà, il parlait français et donc il a enregistré beaucoup de choses en français. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le compositeur Guy Dardelot, en fait, est une femme. Ah. Voilà, c'est Hélène Guy.
D'accord,
voilà.
Je savais pas.
Et c'était une femme. Et donc Caruso a enregistré les deux titres, en anglais et en français. Et j'ai choisi la version française.
J'adore, ça, c'est Leïla qui a choisi.
C'est une de mes préférées. Celle-ci, elle me tue.
Est-ce que vous pensez qu'il faut une condition particulière, un climat particulier pour écouter cet album? Vous aimeriez que votre auditeur soit, ou auditrice soit...
Non, déjà bien sûr de l'écouter par curiosité, pour savoir ce qui s'est fait avant, qui était Caruso, se renseigner sur lui, c'est assez formidable, parce qu'on fait, c'est quelque chose, comment dire, c'est d'une richesse culturelle énorme. Mais aussi ensuite de l'écouter comme ça, juste par plaisir.
Mais quoi, avec un casque,
on se balade dans la nature, ou en voiture, ou sous
une couverture au chaud à la maison, ou près
écoutez-le
près de,
comme ça, laissez-vous on part avec lui, on part avec lui, avec Caruso. Moi, en tout cas, je sais que ce disque m'a fait énormément de bien. Donc ça fait longtemps que je l'avais en moi. Voilà, oui, aujourd'hui il est là, je suis fier de l'avoir fait parce que c'est quelque chose de vraiment difficile à faire, je vous assure que c'est pas évident. Et voilà, et en tout cas, je remercie bien sûr toute l'équipe qui m'a donné l'occasion de le faire, et qui, comme Yvan Cassard qui m'a permis de réaliser
l'Orchestre national d'Île-de-France.
L'Orchestre d'Île-de-France, vous savez, c'est très difficile à faire parce qu'on a 4-5 séances maximum, oui, qui durent 1h30. Hein. Donc vous imaginez un travail comme ça à faire, donc c'est vraiment.
Parce qu'il y a des services aussi.
Ouais. Il y a des pauses et donc c'est très 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 court et donc on n'a pas droit à l'erreur, il faut y aller, il faut mettre tout son cœur dedans et je vous assure que de chanter à la façon de Caruso, c'est très difficile. On s'aperçoit qu'il est vraiment au top.
Pas de droit à l'erreur pour lui non plus, c'est Tanguy Pasturo. Tanguy, votre vie n'a pas de sens, ça se voit.
Non, Nagui, mais aucune vie n'en a, à part celle d'Isaac Newton qui, en voyant une pomme tomber, a rédigé la loi de la gravitation universelle, ou celle de Jay-Z qui, en voyant le boule de Beyoncé bouger, a compris la loi de la gravitation universelle. Une vie, c'est quoi? On naît, on meurt, et entre les deux, il y a 70 ans, durant lesquels on ne fait pas ses besoins sur soi. On tente de rester digne, en somme, mais même ça, c'est fini. Je hais cette époque. 2019 est une chienne, ta mère, le calendrier grégorien. Car hier, j'ai lu les pages décideurs du Figaro, celle des winners qui gagnent tellement de blé qu'ils ne comptent plus en euros mais en K-euros. Mmh. À titre de comparaison, Alexis Le Rossignol compte en micro-euros. Vous allez me dire, Pasturo, la page décideur, c'est ridicule parce que j'ai moins de leadership qu'une pizza à l'ananas. Quand en soirée je propose un dessiner c'est gagné, dans la minute tout le monde part sur un poker. Mais j'ai eu du temps dernièrement. Hein, grâce aux grèves, j'ai moins causé depuis 10 jours que le mec qui aurait eu à tenir au courant de l'actu de Patricia Cass. Donc, j'ai lu le Figaro intégralement. Quand vous êtes à Inter, c'est un petit plaisir interdit. Ça revient à écouter une chanson de métal satanique intitulé 666 cordes ne bouc dans le cul de Jésus quand on bosse au Vatican. Lire le Figaro décideur, c'est se frotter à des titres d'articles comme l'ancien managing partner de Salzman & Co. rejoint la holding next week en tant qu'executive chairman. Je suis largué. Hein, moi, le seul terme anglophone que je maîtrise dans le monde du travail, c'est week-end. Mais je me suis accroché. Alors j'ai lu un article sur la charge mentale des cadres. Même eux sont fragiles maintenant. Hein, bientôt, ils vont réclamer des RTT, c'est j'en foutre. Et là, je tourne la page, ce qui est le principe de toute publication, à part mon grand-oncle qui a Alzheimer et qui lit la page culture de l'Express du 16 janvier 94 depuis le 16 janvier 94. Hein, c'est un type qui, quand il vous voit, vous dit « La vache, qu'est-ce qui sort comme 10, tonton David, un par semaine hein, ?» C'est bien le premier noir que je vois bosser comme ça. Oh. Oui, grand-tonton n'aime pas les noirs, hein, à part Philippe Laville et Johnny Clegg, m'a-t-il dit. Bref, je tourne la page et là, horreur, enfer, grille des programmes de France 3, que lis-je? Un article intitulé « La doudoune mania sans manche contamine l'entreprise ». Je ferme un instant les yeux, me dis que c'est un cauchemar, mais quand je les rouvre, je vois de nouveau le Figaro posé sur ma table basse Pierre-Import à 4 pieds, dont 2 pétés. Et là, je réalise épouvanté que la France, cette nation qui a vu naître Yves Saint-Laurent, Christian Dior, mais aussi Louis-Christophe Waikiki, plus connu sous ses initiales LC, est devenue un sombre pays de porteurs de doudounes sans manches. Si Kim Jong-un m'écoute sur les grandes ondes depuis la Corée du Nord, je lui dis donc ceci, Kimi, mon amour, défonce-nous la gueule à coups d'ogive. On se moque de ta coiffure, dite du renard mort que t'as sur la tête. Mais nous, on porte la doudoune sans manche, nous méritons de crever. La doudoune sans manche a été conçue par Belzébuth pour nous donner l'allure la moins sexe possible. Nous, Français qui forniquions tels des ânes, dégageons à cause de la doudoune sans manche le même charisme qu'un céleri rave. Résultat, notre taux de fécondité s'effondre. On va se faire bouffer par les Indiens qui sont déjà 1,4 milliard. Forcément, ils font l'amour, ils n'ont pas de doudoune sans manche. Alors que parfois, ils n'ont pas de bras à cause de la lèpre. Donc ce vêtement leur irait mieux qu'à nous.
Donc en fait, en France, vous dites que dans les entreprises, la doudoune sans manche cartonne.
Mais oui, on en vend plus que de gobelets, de bières tièdes au Festival des Vieilles Charrues. Et selon le Figaro, tout le monde en porte, du DRH au comptable, tous en doudoune. Ça donne envie de devenir zadiste ou Alain Juppé et se retirer de ce monde qui part en vrille. La doudoune sans manche, ici on connaît. Daniel Morin en a porté une pendant si longtemps qu'il a encore, toujours sur lui. Il avait l'air à l'époque d'un bûcheron québécois. Avec sa barbe, on avait l'impression qu'il allait couper des rondins. Certains politiques sortant de la matinée l'approcher en lui disant « Mon gros loup, je viens de faire preuve d'une belle langue de bois. Vas-y, débite-la, moi. Ah. » Eh bien, Daniel a presque renoncé à la doudoune sans manche. Il la porte rarement désormais. Et ça l'a rendu coquet. Hein, cette année, il fait le calendrier de nu des anciens de la SACEM avec Adamo et Smaïn. Donc, si Daniel est sur point de le faire, vous pouvez le faire. Avant, l'entreprise, c'était un truc à la Mad Men, avec des mecs en costard chic qui sentaient le bourbon. En 2019, dans ta boîte, tout le monde ressemble au bonhomme Michelin.
Alors qu'avec le réchauffement, le pire du plus froid qu'on a, c'est 8 degrés au petit matin, un petit slip et c'est bon. Donc la réforme des retraites, on s'en fout. Emmanuel Macron doit maintenant dire s'il est pour ou contre la doudoune sans manche. Retour au vrai débat. Parce que je rappelle qu'Edouard Philippe, tout l'automne, en porte et une. Et peut-on faire confiance à quelqu'un qui s'habille aussi mal? La réponse est non. La doudoune sans manche, ça passe si tu butes des grives le dimanche avec ton neveu défoncé à la gnôle de patates. Mais aux plus hautes fonctions de l'État, non. Imagine-t-on le général de Gaulle porter une doudoune sans manche? Le monde de l'entreprise n'est qu'une vaste cuvette à étrons. Abolissons le CAC 40. Boycottons les marques Barbour et Chevignon qui ont lancé la doudoune sans manche afin de couler notre élégance. On ressemble tous à des Allemands à cause de ces connards. Ça valait bien le coup de gagner en 44. Hein, la doudoune sans manche, c'est nul. On est moche avec. Ça pue la plume de poule. Quel est ton projet de vie, porteur de doudoune sans manche? Avoir plus chaud au téton qu'au bras? Le même que celui des stars du X? Un peu de dignité. Ressaisis-toi, Daniel Morin est en train de sortir de l'enfer de la doudoune sans manche. Tu peux le faire aussi. Ouais. Courage!
Bravo!
La bande originale de Roberto Alagna continue jusqu'à midi et demi, juste après son interprétation des Pêcheurs de Perles.
Pêcheurs de Perles. Attends. C'est une prétention.
Il y a Leïla dans les Pêcheurs de Perles, les garçons.
C'est signé Georges Bizet.
Bah ouais. Culture.
Mi par d'oudir encore.
Roberto Alagna est dans la bande originale, c'est votre matinée sur France Inter.
J'ai jamais osé vous poser la question, Roberto Alagna. Quand vous chantez des chansons standards de la vie de tous les jours, mm-hmm, avec votre voix, pas d'opéra, mm-hmm, est-ce que vous aimez votre voix?
En général, on n'aime pas personne. Ouais. Personne n'aime s'écouter, puisque nous, on a un son à l'intérieur. Même vous, quand vous parlez, ouais. Si ensuite vous entendez votre voix,
c'est un drame après.
Voilà, c'est jamais la voix on entend. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on n'entendra jamais sa propre voix naturellement.
C'est vrai.
Voilà, donc, mais on s'y habitue à force. C'est un peu aussi comme le physique, quand vous voyez des photos, on n'aime pas cette photo.
Il y en a qui s'habituent ici. Hein.
Voilà. Et puis quand on la revoit 10 ans plus tard, on se dit, ah bah, elle
était pas si mal. Voilà, c'est pas si mal. Donc votre voix chantée standard.
Tout, même ma voix d'opéra, j'ai du mal à m'y faire. Je préfère la voix des autres.
C'est fou.
Leïla, qu'est-ce que cette interprétation de Caruso et du répertoire de Caruso de Roberto Alagna t'évoque ?
Moi, ce que je trouve très touchant, c'est le parallèle entre vos deux vies, vos deux itinéraires, et l'interprétation, notamment aux Lumières du Jour, moi qui m'a complètement bouleversée.
Elle est là. Marina, la voix de Roberto Alagna.
La voix, je ne sais pas, mais la présence, je trouve qu'il y a un enthousiasme extrêmement communicatif qui est très agréable. J'ai envie que vous fassiez des nouveaux convertis. Leonard Bernstein, il avait des cours sur NBC à l'époque pour introduire les enfants à l'opéra, à la musique
classique. Des masterclass.
Et tout, exactement.
Ouais.
Et je ne sais pas, ça vous irait bien, quoi. Je trouve que ça donne envie.
Merci, c'est gentil.
Tanguy,
la voix de Roberto, c'est une bulle. On se sent bien, un peu comme dans ces petits clubs qu'on fréquente parfois le samedi.
Merci. Daniel Morin.
Alors moi, je ne suis pas du tout objectif. Moi, non seulement j'aime le chanteur, mais j'aime l'homme aussi, Roberto Alagna. Il le sait.
L'apprécie
beaucoup. Non, j'arrive pas. Et j'ai beau écouter Caruso, j'ai beau écouter le disque Sicilia, c'est Roberto que j'entends derrière et j'entends pas l'hommage qu'il rend, malheureusement, peut-être, mais c'est comme ça.
Merci, Dani.
Albert.
Le plaisir et l'enthousiasme communicatif de Roberto, c'est un plaisir, cet album, et c'est une merveille.
Roberto Alagna, qu'est-ce
que vous, Nagui?
Mais moi, je vous ai dit, ça me donne des frissons.
Ah, bah, c'est pas mal.
Ça me donne des frissons.
C'est le meilleur baromètre.
De l'émotion.
À cet âge-là, avoir encore des sensations, c'est quand même bon.
Roberto Alagna, le 6 février, ça sera Caruso 1813 au Théâtre des Champs-Élysées. Et le 19 septembre 2020, Carmen, avec votre douce et tendre Alessandra Courjac, mais également Béatrice Auria Monzon et du monde, puisque vous serez des centaines à interpréter devant des milliers de personnes au Stade de France le 19 septembre. Merci beaucoup.
Merci.
La bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. À demain, Leïla.
À
demain, Daniel. À tout de suite, c'est moment.
Moment, n'en fais pas trop non plus.
Moment, l'heure de l'émotion, de toutes les émotions. C'est signé Jean-Claude Grimbert, adapté par Zabou Breitman et Antonin Chalon. Et nous, on se retrouve demain avec Patrice Lecomte.
Ah, chouette. Enfin, quelqu'un que j'aime bien.
Voilà, bah, ça sera demain. Bonne journée sur Inter.